Bonjour à tous, je suis toujours Inglorious Berserker ou encore Dylan Malone pour les plus intimes. Je dirige toujours ce club de chroniqueurs, Berserkers Media, chroniqueurs, voilà. Et aussi deux chaînes YouTube, hein, donc Inglorious Berserker, où j'ai parlé dernièrement avec d'autres passionnés des sidekicks du Batman, principalement ses premiers, les Robin. On a fait une grosse rétrospective sur chacun d'entre eux, donc on a un replay sur Nightwing, hein, sur Red Hood, Starbound et Tim Drake, et le dernier Damian Wayne qui sortira dans les jours à venir, au moment où vous aurez écouté ce podcast, peut-être déjà sorti. Et aussi, pour rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, je suis réalisateur, monteur, etc., d'une petite web-série belge sur l'univers du Batman, donc une fan-fiction à but non lucratif, avec, comment dire, comme c'est l'univers du Batman, qui dit forcément Gotham, etc., univers policier, gangster, mafiosi, si j'avais pas dit gangster déjà auparavant. Et ici, du coup, eh bien, je vais vous citer, moi, mes recommandations. Vous allez découvrir à l'audition que c'est un podcast un peu particulier parce que on n'a pas su enregistrer ensemble avec l'équipe. Donc ici, vous allez entendre mes recommandations, puis celles de Corbeau et les recos de Martin au niveau des films 2021 qu'on vous invite chaudement à découvrir, voire à redécouvrir. Ah oui, et avant de vous donner mes deux grosses recommandations, ou peut-être un ou deux bonus en plus, ma seconde chaîne YouTube avec DeviantPorg, qui est souvent sur les dernières émissions de la chaîne éponyme Inglorious Berserker, ma première chaîne, eh bien on en a ouverte une il y a quelques mois, grâce à la DC Fandom, un gros événement sur les actus de DC, donc film, série, comics. Et en fait, ben voilà, ça nous permet, en dehors de nos chaînes respectives, d'aborder toujours des sujets liés à la pop culture, donc que ce soit les mangas, animés et comics. Par exemple, les dernières émissions qu'on a faites sont sur l'œuvre d'Eiichiro Oda, donc One Piece. Pour les néophytes qui souhaiteraient découvrir, je vous invite très chaudement à aller regarder, écouter ce que l'on a fait. Donc voilà, on revenait sur les membres principaux de l'équipage au vu de l'adaptation live de Netflix et des Fruits du Démon, qui sortira dans les jours à venir aussi, ça dépend de quand vous écouterez ce podcast. Réservoir Pop, je rappelle le nom de la chaîne si je ne l'avais point dit. Et avant enfin de vous parler de mes films, forcément, le nom de la websérie que je produis, c'est The Batcrux. Normalement, vous le verrez sur les miniatures de Batcrux, la websérie. Enfin, voilà. Et donc, chers auditeurs, ou voire nouveaux auditeurs aussi, qu'on accueille très chaudement ici, maintenant, au moment où vous nous entendez dans votre voiture, au calme, au travail, etc. Ma première et première recommandation du podcast du jour est City of Lies. Donc, City of Lies, qui est une production qui a eu pas mal de problèmes, en fait, puisque l'acteur principal n'est autre que Johnny Depp. Et pour certains d'entre vous, si vous ne le saviez pas, en fait, Johnny Depp a eu des problèmes avec son ex-femme. Donc, pas mal avec sa dernière ex-femme, qui n'est autre que Amber Heard, qui donc joue entre autres Mera, dans les films DC ces derniers temps, Aquaman et probablement Aquaman 2 ainsi que les Justice League. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça c'est, on peut en parler en privé si vous le souhaitez, mais du coup ça a bien foutu la carrière un peu en l'air de Johnny Depp, puisque par exemple, pour rajouter à cela, il s'est vu rejeter le rôle, l'interprétation de Gellert Grindelwald, qui, je rappelle, il interprétait dans les Animaux Fantastiques 2, Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald, forcément. Donc voilà, c'était un peu triste pour ça. Et du coup, je vous fais cette anecdote, comme vous l'avez compris, parce qu'il a le rôle principal ici du film City of Lies. Et qu'est-ce que ça raconte City of Lies, où vous retrouverez un autre grand acteur du cinéma, Forest Whitaker? Eh bien, le film est en scène le point de vue basé sur une histoire vraie, enfin d'un enquêteur, et Whitaker qui joue un journaliste qui va le rencontrer plus tard quand l'enquête, on va dire, est plus ou moins bouclée. Et cette enquête, c'est sur quoi ? En fait, c'est sur l'assassinat des rappeurs Biggie Smalls, donc Notorious B.I.G. et Tupac. Ça met davantage l'accent sur Biggie, mais ça reste tout aussi intéressant que la série Unsolved, réalisée par Netflix, est sortie il y a déjà plusieurs mois maintenant. Qui, comme forcément c'est une série, donnait quelques pistes. On avait vraiment le suivi. L'enquête était plus pertinente, en fait, l'affaire des policiers sur cet assassinat, avec un bon casting, malgré qu'il cabotinait, je trouve, un peu trop souvent, que ça donnait des trucs intéressants, mais qu'on sentait en tout cas, en fait, que comme le film le montre, City of Lies, que vous allez découvrir, il y a... C'est... Je pense que ça pourrait émouvoir certains d'entre vous, surtout si vous êtes liés comme moi davantage à la culture hip-hop, parce que déjà, comme je vous l'ai dit, c'est une histoire vraie. Et ce que l'on apprend, ou voire pour des amateurs, si vous voudriez vous lancer dans le film, vous allez apprendre davantage, si vous ne suivez pas ou peu les informations de notre société, que ça traite de la corruption. Donc, je vous l'ai bien dit plus tôt, on est sur des assassinats. Donc voilà, au sens littéral, des gens ont orchestré le meurtre des deux rappeurs qui est donc dirigé, en fait, c'était un peu la guerre du rap West Coast, East Coast, en Californie. Et donc, par leur assassinat, des rappeurs comme Snoop Dogg, P. Diddy, bon, lui, c'est vrai que c'est plus producteur, hein, il reste davantage marqué comme prod, mais on va dire... ont pu avoir plus de facilité à se faire entendre après cela. Donc voilà, je vous mets ça comme ça. Mais comme ça, vous avez un petit peu le contexte. Et du coup, ouais, je me devais de le regarder parce que, comme vous l'avez compris, je suis très lié à la culture hip-hop, rap, etc. Parce que c'est un des genres qui m'a marqué, pas trop rentré aussi dans les détails, pour ne pas m'éterniser dessus dès mon plus jeune âge. Donc ouais, je me devais de le regarder, surtout que c'est des rappeurs que je connaissais de nom, mais que j'ai appris à écouter sur le tard un peu, parce que j'ai été bercé par d'autres comme Eminem, etc. Enfin ça, on pourra en parler sur ma chaîne ou sur Twitter, comme vous le sentez, Instagram. Bref, revenons au film City of Lies. Ça m'a émeu, sans trop vous surprendre, par rapport au récit, à des choses que je vis moi personnellement. Et parce qu'une nouvelle fois, on est sur une histoire de corruption, en fait, où la police est liée, où on comprend que c'est encore la police liée à la mairie, etc. Il y a des affaires de gangsters, mais on comprend que les gangsters, ça a été un peu les pions dans cette histoire. C'est toujours comme ça, quand on a du fric dans cette société, on peut plus facilement vivre. Ça, je vous l'apprends pas trop, je pense, à ce niveau-là. Donc, ouais, je pense que pour le côté humain, en fait, ça pourrait vous plaire, là où la série Unsolved de Netflix est plus focus sur l'enquête, en fait. Forcément, avec ces 6 épisodes, je pense 6-8 épisodes, bien que je trouve que ça aurait pu être un peu écourté. Donc, je rappelle Johnny Depp, qui incarne le personnage principal. Donc, je rappelle, je pense, si vous l'aviez mal compris, une histoire vraie, personnages qui ont réellement existé. Et Forest Whitaker, le journaliste qui va essayer avec lui de résoudre, en tout cas, d'aller un peu plus loin dans l'enquête que la police avait à tenter de fermer. Voilà, le premier film que je vous invite à regarder, je le rappelle, City of Lies, avec probablement un des derniers grands rôles de Johnny Depp, très émouvant. Ouais, et qui a une fin un peu, au vu de ce que je viens de vous dire, douce amère. Voilà. Enfin voilà, City of Lies, première recommandation. Et deuxième film que je vous conseille du podcast, forcément on reste toujours là-dessus. Eh bien, ce n'est autre que Comment c'est loin. Donc, c'est un rattrapage. Donc, il met un film mettant en scène français, le duo de rappeurs Orelsan et Gringe. On reste dans la culture hip-hop, comme vous l'avez compris. Parce que et pourquoi j'ai rattrapé ce film. On a eu la sortie il y a quelques semaines de Suprême, le biopic sur les rappeurs toujours existants, NTM. Donc, composé par Kool Shen et Joey Starr. Et vraiment, du documentaire que j'avais, et que je vous invite à regarder, de TMC, très intéressant. Et on connaît un peu mal comment ces rappeurs-ci, parce que, ça fait un peu cliché de dire ça comme ça, mais Joey Starr, pour l'anecdote sur NTM Suprême, a vraiment vécu dans un milieu très difficile, je dirais même un milieu de parenté hostile, voilà, là où son confrère Kulchen aurait pu être en fait un grand joueur de foot, voilà. Mais je vous invite à découvrir vraiment, si vous aimez un petit peu ou être curieux de cette culture, à aller jeter un œil au documentaire de TMC ou à d'autres sur le groupe duo. Et donc voilà, on revient à comment c'est loin. Ça faisait un moment en fait que je devais le regarder, et puis je suis passé outre. Et comment vous dire, je trouve c'est pas le film de l'année, mais en soi il est très cool parce que après ça peut être, on peut y voir une sorte de promo à l'un des derniers albums qu'ils ont fait ensemble de leur groupe Caster Floaters, parce que par exemple en fait le film va mettre en, c'est comme s'ils avaient fait une fanfiction autour de leur morceau inachevé. Pourquoi je vous dis tout ça en fait? Parce que le piste de départ, c'est donc voilà, c'est deux gars qui sont un peu paumés dans leur vie, au début de la trentaine. Orelsan incarne donc Aurel, quelqu'un qui accueille les gens dans un hôtel, je sais plus, non, un réceptionniste. Et Grinch, un peu le pote chômeur, etc. Là, je me retrouve un peu dans le côté, pas, oui, forcément chômeur, mais le pourquoi il veut pas travailler, que je vous invite une nouvelle fois à découvrir par vous-même. Eh bien, du coup, en fait, par rapport à ça, les deux gars, en fait, outre cet aspect-là, ont fait un freestyle, en fait, plusieurs mois auparavant, sur une petite station de rap, comme on en connaît peut-être parmi vous, hein, comme Skyrock, etc. Et donc, ils ont fait un freestyle, ils ont eu du mal à se trouver, sans trop spoiler, et puis bam, ils sont partis direct. Donc, si vous connaissez le duo, vous savez que ça y va. Voilà, il y a du punch, il y en a un qui finit une phrase, l'autre enchaîne, c'est très soigné, vocabulaire très riche, enfin, ça percute. Ils savent se poser sur, je vous apprends rien, ceux qui ont l'habitude d'écouter Orelsan et Gringe, Caster Floaters. Et en fait, après, pendant X temps, en fait, on apprend que deux jeunes producteurs de ce genre de musique les avaient entendus dans une voiture, on le voit. Et on apprend par la suite donc qu'ils les produisent depuis X années, presque même, enfin X mois, presque un an d'ailleurs, il me semble, qu'ils disent dans le film. Mais ils n'ont rien fait en fait, les deux gars, pendant cette année-là. Donc là, ils leur mettent un ultimatum. Donc voilà, bam, dans le film, t'as un élément modificateur, on va dire. Comme on peut apprendre dans les cours français, ils ont un truc à faire, c'est, dans un temps imparti, en 24 heures, ils doivent écrire un morceau. Donc en fait, ce qui va s'en suivre, après 20-30 minutes d'introduction, jusqu'au moment où on arrive où ils leur mettent cet ultimatum-là, eh bien, il va se passer plein de trucs, des petites péripéties, qui vont faire que, vers la fin, ils vont commencer à gratter, ça va finir pas mam mam. Ils vont travailler toute une nuit sur le morceau en fait inachevé, voilà, dont je vous mettrai un extrait par la suite afin d'introduire ce podcast. Donc en gros, je ne vais pas m'éterniser plus sur ce film parce que c'est vrai, il a vraiment cette ambiance forcément très humain, hip-hop. Je pense que beaucoup de gens parmi nous peuvent s'y retrouver dans le duo. Et puis voilà, je pense qu'une nouvelle fois, ça parlera aussi forcément et davantage à ceux qui en sont fans. En termes de lyrics, d'ambiance, c'est un film très punchline, comme je l'ai dit, cadre sympa. C'est vrai qu'il y a des beaux plans, on sent qu'il y a... le plouc du voisin qui a été filmé. Et que apparemment, Orelsan serait de Caen, et il me semble du coup que la ville de Caen, C-A-E-N, je pense que vous connaissez, en plus pour s'il y a des Français qui nous écoutent, a été mis en scène à travers leur film. Donc voilà, ça m'a paru sincère, des échanges de quotidien, etc. Enfin voilà, un film très sympa. Et puis leur dialogue aussi, on sent qu'il y a peut-être des vérités qui s'en dégagent. Parce que dans toute relation, ça peut être très compliqué, que ce soit, vous en doutez, que ce soit tout beau tout le temps, c'est limite pas possible en fait. Donc voilà, je vais pas m'éterniser, comme je disais, un film qui me paraît sincère une nouvelle fois, rythmé, qui a de l'émotion, qui a on va dire, des enjeux, forcément, comme ils doivent écrire un morceau dans un temps imparti, vu qu'en plus, ben, ils n'ont rien foutu pendant une année et que ben, y a deux jeunes prods aussi qui les produisent. Donc voilà, comment c'est loin, Aurel San et Gringe, Casseur Flotteur. Je vous mets le morceau, j'espère que pour cette introduction de podcast, s'il y a des gens plus réticents dans la culture hip-hop, ben que ce genre de film vous ouvrira à celle-ci. Et je reste dispo pour en parler avec plaisir et pour vous. Et aussi, ben, je vous place la petite anecdote avant que vous l'entendiez plus tard. Ours Martin est aussi marqué par celle-ci. Vous vous dirigez vers moi ou vers lui pour parler Notorious Big, etc. On est chaud, on est dispo. Et pour parler évidemment d'autres choses toujours liées au cinéma, etc. Donc merci à vous d'avoir été. Merci à vous d'être là, de nous écouter. Avant de vous laisser avec toutes ces belles voix de Corbeau et de Martin pour ce dernier podcast de l'année 2021, de nos recommandations, je vous souhaite de bonnes fêtes, un joyeux Noël et tout ce qui s'ensuit, tutti quanti. Portez-vous bien, que la santé soit avec vous et surtout la passion. Et comme dirait un certain dont j'aime beaucoup aussi l'égiter, le commis des comics, lisez, lisez et lisez. La bise, ciao, ciao.
Je finis pas mes phrases, je connais pas les points. Je commence après-demain, je contrôle pas le destin. Rien n'est assez bien, je finis jamais rien. Manquerait la moitié des traits si je devais te faire un dessin. En hommage à toutes les opportunités gâchées, à nos histoires mortes avant d'avoir démarré, aux heures laissées passer, aux potes jamais rappelés, au job que j'ai lâché, aux portes que j'ai claquées, à tout ce que je laisserai.
Inachevé.
Adolescent, mon seul but c'était mettre des paniers. Bien sûr j'ai tout plaqué pour un seul match où j'ai pas joué. Évidemment je vais faire pareil avec le son. Pas besoin d'une bonne raison, de toute façon je suis pas censé rapper. À toutes les vérités que j'ai pas osé m'avouer. Ma meuf me casse les couilles, j'ai pas les couilles de m'en séparer. J'attends qu'elle me quitte, les bras croisés en attendant la suite. En avant la fuite, j'attends la gloire, j'attends qu'elle me bip. Incapable de faire des choix, je suis comme mes figurines. Inutile, je reste chez moi, je baisse les bras.
Inachevé.
Un prototype, une version bêta. Une seule réponse à toutes les questions. Je sais pas, comme un constat d'échec dans la playlist. Comme un air d'abandon sur la setlist. Je fais rien à fond donc je serai qu'à moitié triste. Et à l'image de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je vais même pas finir mon couplet.
Pourquoi quand elle m'attend sagement, je passe toutes mes nuits à jouer. Pourquoi est-ce que je l'évite lâchement quand je la sens tirailler. Je trouve pas les réponses, peut-être que je suis comme Mario. La tête dans les nuages à la recherche d'une vie cachée. Je compte plus mes relations.
Inachevé.
Meuf ou branlette améliorée, je fais pas la diff donc elle me quitte fâchée. J'ai essayé de changer les choses, lui dire avec des roses, la sauver de mes névroses. Mais comme les études, ça m'est vite passé et je ressens comme un vide.
Inachevé.
J'ai jamais rien fini sauf ce que j'ai entrepris de gâcher. Complètement détaché, je m'écoute raconter des histoires. Le monde peut bien m'attendre même si je suis tout seul à y croire.
Faudrait qu'on se pose et qu'on discute.
Qu'on discute, ouais, on verra ça demain. Là je vais rejoindre mes potes, c'est jeudi soir. Mode de vie nul, j'avale la pilule tristement. Admettre la vérité, je refuse, je me montre des complots. Longtemps que je simule, persuadé que je fixe le temps. Incapable de voir que tous mes refuges sont mes tombeaux.
Salut à tous, c'est le Corbeau. Je vais vous parler aujourd'hui de 4 films que j'ai vus cette année. Bon, en fait, il y en a 3 de 2021 et un peu plus ancien. Mais exceptionnellement, ce ne seront que des films français. Et oui, j'étais un peu comme vous. Les derniers films français dont j'avais entendu parler étaient Les Tuches, des films de Dubosc ou de Kev Adams. Oui, ça fait pas rêver, hein. Mais heureusement, entre les comédies soi-disant populaires mais en fait totalement mongolo et les bêtes à concours de festivals prétentieuses, vous pouvez trouver de petites perles avec quand même des budgets conséquents, mais qui se voient à l'écran. On sent que ça n'a pas été dilapidé juste pour payer un acteur vedette. Donc, le premier et le plus ancien, c'est Au revoir là-haut, film de 2017 d'Albert Dupontel, avec Nahuel Pérez Biscaillard, Albert Dupontel, Laurent Lafitte, Nils Arestrup, Émilie Dequen et Mélanie Thierry. En fait, sous forme d'un flashback, narré par Dupontel, il nous est raconté l'histoire donc du soldat Maillard, Albert Dupontel, qui prend soin à la fin de la guerre d'Édouard Péricourt, une gueule cassée, dont le visage a été défiguré, qui ne vit plus désormais que sous morphine et caché par des masques. Tous les deux décident de monter une escroquerie au Monument aux Morts pour en récolter l'argent promis. Tout d'abord, visuellement, ce film est absolument magnifique. Une direction artistique somptueuse, une belle reconstitution du Paris des années 20, une histoire bien trouvée avec des acteurs de qualité. Là, on est vraiment dans le haut du panier du film français. C'est extrêmement ambitieux. L'histoire va vous arracher des larmes. Vous imaginez, elle m'en a arraché à moi. C'est dire. Et en plus, on ne prend pas le spectateur pour un idiot. L'histoire est relativement complexe, mais elle ne nous perd jamais. Les personnages sont bien définis et on arrive à mêler justement l'humour, la comédie et l'émotion. C'est une petite perle, franchement. Albert Dupontel est très à l'aise derrière la caméra et devant la caméra. On retrouve un peu son personnage classique, toujours en décalage par rapport au reste de la société. C'est une réussite totale. Je l'ai découvert justement que cette année. Il n'y a même pas deux semaines. Et je regrette de ne pas l'avoir vu avant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film largement, largement à voir. Ensuite, je vais tout simplement vous parler de Kaamelott. Alors est-ce que j'ai besoin de vous présenter Kaamelott et Alexandre Astier? Bon, on est dans la continuité de la série. Alors on est plus éloigné des premiers épisodes qui étaient plus des pastilles d'humour de quelques minutes. Il y a toujours de la gravité, mais on retrouve avec un grand, vraiment un grand plaisir, les différents personnages de la saga. Bon, bien sûr, Alexandre Astier, la reine, Perceval, Caradoc, Merlin, enfin, je ne vous les cite pas tous. On retrouve toujours les personnages, ils sont dans la continuité, mais fidèles à eux-mêmes. Donc, c'est du tout bon. Là aussi, il y a du budget, ça a été travaillé. Ça manque peut-être un petit peu d'ampleur épique. Je trouve que ça fait toujours, comme les épisodes que nous connaissions, un peu du théâtre filmé. Voilà, donc dès qu'il y a des grands espaces, c'est pas forcément bien mis en avant. Mais bon, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver les personnages. Un autre défaut, peut-être, les étapes. On saute un petit peu d'une scène à l'autre. C'est un petit peu discontinu à certains moments, quoi. Bon, j'imagine qu'ils ont voulu placer pas mal de choses. C'est aussi un premier volet, donc il faudra voir la suite. Mais là aussi, bon, Kaamelott, j'étais déjà fan. Là aussi, c'est toujours un film très estimable et plutôt indispensable à voir. Ensuite, maintenant, je vais vous parler d'Adieu les cons. Film d'Albert Dupontel. Décidément, c'est son année, en tout cas pour moi. Les acteurs, Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié. L'histoire, Suze Trappet, Virginie Efira, apprend qu'elle est sérieusement malade. Elle décide de retrouver l'enfant qu'elle a abandonné lorsqu'elle avait 15 ans. Et dans cette quête, elle va se retrouver face à JB, un fonctionnaire en pleine dépression, et Monsieur Blin, un archiviste aveugle. Ensemble, ils vont poursuivre la quête de Suze pour retrouver son enfant. Alors là aussi, on a toujours un petit peu un festival Dupontel, hein. Son personnage un peu lunaire, toujours en décalage. On retrouve un petit peu les obsessions de Dupontel sur la police, la violence. Mais derrière la gaudriole et le rire, l'histoire en filigrane est extrêmement touchante. D'ailleurs, bon, il a pris Virginie Efira, qui à peu près comme dans tous les rôles dans lesquels je l'ai vu récemment, est toujours impeccable. Une présence, un magnétisme, une beauté rare. C'est du tout bon, franchement. Là aussi, de l'émotion permanente. Une fin qui ne donne pas dans la simplicité, la facilité. Le film a peut-être un peu loupé son public à cause de la pandémie. Il a pu ressortir cette année. Je ne sais pas exactement quels sont les chiffres. Mais là aussi, c'est une comédie à voir. Si vraiment on doit payer entre 10 et 12 balles pour aller voir un film, mettez-les là-dedans. Ça vaut largement le coup. Comme je le disais précédemment, c'est l'année de Dupontel et je pense que Albert Dupontel est vraiment une des personnes les plus intéressantes du cinéma français. Déjà, il lance des projets qui, à la base, sont pas extrêmement mainstream, si je peux m'exprimer ainsi. C'est toujours en décalage complet, mais voilà, il a un budget, vous le voyez à l'écran et il ne prend pas les spectateurs pour des imbéciles. Il est vraiment une des meilleures choses qui soit arrivée au cinéma français. Donc largement recommandé. Et pour finir, je vais vous parler enfin de Boîte Noire. C'est un film toujours français de Yann Gozlan de 2021. L'histoire, Mathieu Vasseur, Pierre Ninet, est un agent du Bureau d'enquête et d'analyse, le BEA. Vous savez, ceux qui étudient les boîtes noires en cas d'accident. Lors d'un crash aérien, il est mis sur l'affaire. Il essaye de trouver la raison de ce crash. Après avoir de façon erronée interprété les causes du crash, il va peu à peu suivre une autre piste et s'entêter dans cette voie. Alors on est plutôt dans le thriller politique, économique, un peu à l'ancienne. Je sais pas, il m'a un peu fait penser à ces films des années 70. On est dans un film où des intérêts financiers ou politiques peuvent déboucher sur un thriller assez palpitant. Pierre Niney, voilà, qui a une petite trentaine aujourd'hui, est absolument phénoménal dans ce rôle, dans rigueur, sobriété, mais on croit à tout instant à son personnage. Le polar est rondement mené, c'est solide, il dure un petit peu plus de 2 heures, mais en toute honnêteté, vous ne les verrez pas passer. C'est du tout bon, là encore. Ça fait un petit peu penser au polar des années 70, pendant la forme, mais sur le fond. On retrouve toujours quelques petites scories du film français, mais vraiment, ça ne va pas vous gâcher le spectacle. C'était vraiment un film à voir, il va vous tenir en haleine, là aussi, comme je le disais pour tous les précédents films. Soit l'achat en vidéo, soit la place de cinéma sont de l'argent extrêmement bien investi. Voilà, vous ne le regretterez pas. Et je vous conseille de vous faire plaisir. Alors j'espère que ces 4 films, soit vous les avez découverts, soit vous aurez envie de les découvrir. En tout cas, si le cinéma français continue dans cette voie, en général, je pense que chaque année, le cinéma français réussit à faire de bons films. Il faut pas non plus être trop dur avec. Mais il faut encore chercher, quoi. Voilà. Je trouve que 2021 de ce côté a été plutôt une bonne année, mais il faut continuer à chercher. Et bon, faut pas s'arrêter, comme je disais, aux produits grand public vaguement bâclés qu'on nous sert assez facilement. En cherchant un peu, il y a moyen de se faire plaisir. Et toute personne cinéphile ou même personne qui aime passer simplement un bon moment devant son écran pourra y trouver son compte. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que ce podcast va être diffusé exactement, mais au cas d'où, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année et continuez à voir des films. Salut.
Salut à tous, auditeurs du BMC. Alors, c'est l'ours Martin qui vous parle. Et à l'appel de notre cher président Jim Malone, j'avais voulu vous partager mes 2 coups de cœur cinématographiques de 2021. Alors, de films sortis en 2021. En premier lieu, alors pour ceux qui nous écoutent déjà depuis quelques temps, ils doivent se douter de ce que je vais mettre, c'est Dune, voilà, de Denis Villeneuve. Parce que bon, déjà, moi je suis un peu une vraie saucisse avec lui, j'ai beaucoup d'amour pour ce qu'il fait, je serais allé le voir même si on avait dit que c'était nul. Mais bon, il s'avère que le film est bon, en tout cas meilleur que celui de Lynch. Et ben, Dune, je vous le conseille. Pourquoi? Tout simplement parce que ben déjà, si vous avez aimé le roman, c'est une adaptation assez fidèle, en tout cas de tout ce qui est décrit dedans, de la mise en scène, même la mise en scène qui est faite dans le roman, la description des situations. Vraiment, Villeneuve arrive très très bien à le mettre en image et c'est beau en fait. Voilà, c'est pour ça que je vous conseille de voir ce film, c'est juste beau. Il n'y a pas... pas de surprise hein, par rapport au scénario, même par rapport au livre, c'est pas, il n'y a pas de choses étonnantes, mais on est vraiment plus marqué par la beauté, l'ambiance sonore aussi. C'est pour ça qu'au-delà d'un film, je qualifierais ça beaucoup plus d'expérience de cinéma. Là pour le coup, les personnes qui seraient tentées de le voir sur un ordi portable, voire un smartphone, pitié, pitié, oubliez, essayez de le voir avec un écran suffisamment grand et un son qui crache au maximum. Parce que Villeneuve a vraiment habillé son film avec le son, et les musiques, les ambiances sonores, même les sons des machines, ça vous pénètre véritablement. C'en est limite peut-être un petit peu fatigant à la fin, sachant que bon, le film dure quand même 2h30, et ce n'est que la première partie, c'est que le premier tome. Mais voilà, vous avez véritablement une expérience, on va dire, totale. Il vous manque, bon, il manque que l'odorat, mais c'est total et vraiment ça prend au trip, surtout dans une salle bien équipée. Mais Dune, en dehors de son casting qui est vraiment au poil, rien à dire là-dessus, en dehors du script, moi c'est vraiment cette ambiance, cette photographie, la beauté, le son, la musique, il y a, je pense, rien à dire là-dessus. On pourrait lui reprocher ses longueurs, c'est vrai, Après, on est vraiment face à un livre mis en image. Il y a les gens qui vont aimer et les autres pas. Mais en tout cas, ça, c'est ma première recommandation de l'année. La deuxième, on change complètement de format, puisque ce n'est pas un film sorti dans les salles, c'est un film qui était sorti sur Netflix, puisque c'est Oxygène, donc d'Alexandre Aja. Alexandre Aja, donc, notre réalisateur français qui est parti faire carrière aussi aux States, il revient aux affaires avec des acteurs français, puisque Oxygène est porté véritablement par Mélanie Laurent, qui va jouer une espèce de huis clos. Parce que l'histoire, c'est une femme qui se réveille dans une capsule cryogénique, accompagnée d'une intelligence artificielle qui lui parle et qui lui prévient qu'elle va manquer d'oxygène dans très peu de temps. Et avec les quelques informations qu'elle a, parce qu'elle ne se souvient de rien, elle est amnésique, avec les quelques infos qu'elle a, les quelques dialogues qu'elle fait avec la machine, elle va pouvoir détricoter son histoire et se rendre compte de... essayer de comprendre en tout cas pourquoi elle est là, pourquoi elle est dans cette capsule et pourquoi est-ce que comment est-ce qu'elle va pouvoir s'en sortir et ne pas finir asphyxiée dans sa capsule. Voilà, donc c'est vraiment un huis clos, c'est anxiogène. Ça, Alexandre Aja est très très fort pour ça. Moi j'adore personnellement. Les personnes qui ont vu Source Code avec Jake Gyllenhaal trouveront sûrement quelques similitudes, mais là vraiment dans Oxygène on est vraiment beaucoup plus centré sur le personnage. Mélanie Laurent, personnellement, je ne l'aime pas forcément, mais là-dedans, je trouve qu'elle est vraiment excellente. Secondée par la voix, non, on ne le voit pas, Mathieu Amalric, il est crédité, mais on ne le voit jamais, puisque c'est lui qui fait la voix de l'intelligence artificielle qui est avec elle. Et sa voix aussi se place très très bien sur un ton un peu monocorde, doucereux, qui essaye d'être gentil en permanence. Et on a cette espèce de dialogue homme-machine en permanence qui fonctionne très bien. C'est anxiogène, il y a de la tension, ça monte petit à petit. On aimerait vraiment pas être à la place de Mélanie Laurent. Et pour tout ça, moi, Oxygène, ça a marché. Voilà, ça a marché. C'est un film en une heure et demie, il vous met directement dedans, il vous emporte jusqu'à la conclusion finale. Et c'est... c'est finalement tout ce qu'on attend d'un truc comme ça. C'est tout ce qu'on attend d'Alexandre Aja, qui sait très bien faire ces choses-là. Franchement, en plus, allez-y, Netflix, il est facile à voir. Si vous n'avez pas Netflix, vous avez votre oncle d'Amérique, qui sera un bonheur de vous le fournir. C'est ma recommandation. Alors voilà, moi je vous laisse. Et puis je vous dis à très bientôt. Avec d'autres chroniques. Et puis également, un petit teaser sur une future émission... de SF mensuel. Allez, bye bye tout le monde.